amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaîneguitare.com. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour un nouvel interview en direct du showroom intergalactique. Je suis the one and only Arnaud Legrand, ce beau lundi ensoleillé du mois de janvier 2021. Arnaud Legrand, comment est-ce qu'il va bien ?
Il va très bien ce matin.
Ouais ?
Très bien.
Très bien, très bien.
On est bien, on est bien.
Ouais. Mmh. Je te souhaite tout plein de bonnes choses, santé, gloire et fortune pour 2021, bah, puisqu'on c'est encore la période.
Oui, de ouais. Même, un panier plein de bons vœux. Voilà. Faire des bons gâteaux de cette année. Au pire, on est un peu entraîné sur la dernière, si ça doit être un peu rock'n'roll.
Dis-moi, je vérifie ma petite liste parce qu'il faut savoir qu'Arnaud, il est actif sur plein de choses. Il est luthier, il est guitar tech chez Gibson, il est musicien. Il est aussi très actif au niveau écriture. On va évidemment en parler avec l'ouvrage dont je tiens un prototype ultra secret sur mes genoux. Donc, tu fais toujours tout ça ?
J'essaie de faire tout. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui fonctionnent moins bien, je fais les autres. Et les dernières périodes ont permis justement d'ajuster ce genre de choses.
Ouais.
Je dis toujours, je ne suis pas luthier. Je ne fabrique pas. Je suis un excellent guitar tech. Au
d'accord.
Point où Gibson, on n'était que trois à faire le même boulot. On est toujours trois en Europe.
Mm-hmm.
Mais je dis toujours, je ne suis pas luthier. Je ne m'arroche pas des choses. Je ne fabrique pas.
D'accord.
Je fais de la restauration et mm-hmm. de la préparation, un peu de haut vol.
Mm-hmm.
Et peut-être qu'un jour, je prendrai le temps de fabriquer un petit peu plus.
D'accord, ouais. Ok. Tu te réserves cette carte au cas où, quoi.
Ouais, j'aurai le temps de me poser, en fait, pour faire ouais. des choses originales.
D'accord.
Voilà.
Et donc, ton atelier est toujours pas très loin de la Bastille, c'est ça ? Le
oui.
petit grand atelier de Arnaud Legrand, c'est ça ?
Il s'appelle le grand atelier parce que je m'appelle Legrand, mais c'est définitivement pas les chouilles ni le nombril, parce que c'est un petit endroit
ouais.
Où on est quelques luthiers, avec ouais. les luthiers du baroque, du quatuor, et moi, à l'étage, qui fait le rock and roll, du baroque and roll. Voilà.
D'accord. Et tu acceptes tout type de clients, acoustique, électrique, restauration, réparation,
ouais,
réglage, tout
ouais,
ça, tout ça ?
Oui, tout le monde. J'ai beaucoup de clientèle qui sont des professionnels, mais j'accueille aussi les gens qui ne le sont pas et qui veulent, avec leur petite squire sortie du
ouais.
pack, avoir quelque chose de sérieux pour attaquer dans de bonnes conditions.
D'accord. Arnaud Duchossoir, c'est pas Arnaud d'ailleurs, voilà, c'est l'émotion qui me fait me tromper. André Duchossoir nous a quittés il y a pas très longtemps, c'était quelqu'un qui était très important dans le monde de la guitare en France, dont tu étais très proche, donc il nous laisse quoi André ?
Bah, l'envie de continuer avec aussi l'injonction de continuer à écrire l'histoire de notre patrimoine, l'histoire des musiciens, l'histoire des instruments de musique. Il nous a quittés très rapidement, de façon assez inattendue.
Mm-hmm.
Et c'est quelqu'un dont on ne mesure pas ici, je pense, l'importance internationale.
Ouais.
Il a fallu quand même un jour, en parlant en américain, que je lui explique qu'il n'était pas américain. C'est pas deux choses, ouais. C'était André Duchossoir. Et donc on avait quelques projets encore en commun. Il y a peut-être des choses qui verront le jour par la suite. Et définitivement, c'était un pionnier exceptionnel avec la rigueur qu'on lui connaissait. Et sur le livre dont on va parler, il y a une ou deux dédicaces qui lui sont adressées. Et alors qu'il me disait « Oh, moi, ça m'emmerde, t'es guitare, tout ça », parce que lui, il rêvait de guitare américaine quand il était jeune. Mais je pense quand même lui avoir inoculé quand même le virus. Il m'a offert d'ailleurs une Favino qui appartenait à son père, qui est dans le livre,
d'accord.
à son père qui faisait le métier. Et il se rendait compte effectivement que c'était important aussi d'écrire cette histoire. Et il m'a toujours soutenu dans cette voie.
Moi, je me rappelle avec émotion d'une conférence que j'avais organisée où vous étiez intervenant, et André et toi, sur le thème de la guitare vintage. Toi, tu avais parlé de la guitare Busato, je crois bien.
Oui. Ouais. C'était au départ de mes recherches sur Busato. J'ai publié depuis sur Busato en français et puis aux États-Unis. Comme on est les deux seuls avec André à avoir publié aux États-Unis en fait. Et moi je le fais sur comme Favino, mais j'ai commencé dans Fretboard Journal qui est quand même
belle revue. Ouais.
Voilà. Et André me jalousait que ça. Il n'a pas son palmarès Fretboard, mais lui tant d'autres choses.
Ouais. Et cette conférence, d'ailleurs, qui est toujours disponible en replay et dont 5 ans après, 6 ans maintenant, j'ai toujours d'excellents échos parce que ça avait été une soirée captivante. Alors, c'était une date dramatique
Funeste,
puisque
ouais.
c'était la date lors des événements du Bataclan et tout ça. Mais néanmoins, je me rappelle, on était sortis de là, c'était comme une bulle. Et puis à ce moment-là, on a rallumé nos téléphones et puis on a été vite replongé dans une triste réalité. Bref, on est rassemblés ici tous les deux pour parler d'un projet un peu fou pour raconter l'histoire Favino. Et puis tu nous as fait une très belle introduction avec une véritable authentique Favino en
Alors, si on
plus.
commence à montrer la guitare,
Bah oui.
ce qui est un peu le but du livre, on verra que le livre est en relation avec les gens qui jouent les instruments.
C'est bien ça.
Cette guitare, c'est une Favino des années 70, de 1972, qui a appartenu à plusieurs musiciens, qui est ma Favino.
D'accord.
Et c'est sans doute l'un des instruments qui a fait connaître Jacques Favino et son fils, qui continue à produire avec sa patte, sa personnalité. Ces guitares qui sont connues internationalement parce qu'elles ont été jouées après les Selmer par Matelot Ferret
D'accord.
qui a vraiment beaucoup à voir avec la carrière de Jacques Favino et puis les frères toute la famille Ferret d'ailleurs confondue de Boulo et Elios ayant enregistré des albums extraordinaires sur Steeplechase avec ce timbre bien particulier. C'est aussi donc que ça sonne si on veut
Ça, c'est le son Favino.
Voilà. Bon, quelque chose de c'est très 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 fin, c'est très très délicat dans les aigus. Ça a du son, c'est très riche. Et c'est une guitare qu'on a retrouvée aussi dans les mains d'Enrico Macias, c'est-à-dire qu'il voulait faire. Ça fonctionne aussi. On l'a eu dans les enregistrements de Brassens, la guitare d'accompagnement derrière
Ouais.
Brassens, les petites notes qui viennent.
Donc avec un autre modèle différent.
Voilà, avec toujours. Oui, Brassens jouait un modèle particulier, et derrière, c'est cet instrument qu'on entend. Pour les accompagnements, Joël Favreau jouait sur ce type de guitare. Et c'est aussi une guitare qu'on entend dans les. Les Corses. Oui, monsieur, la valse corse joue sur Favino. Et je pense que la Corse est au mètre carré l'endroit où il y a eu le plus de Favino
Ah
au
ouais,
monde,
d'accord.
puisque le tout premier à avoir commandé à Jacques Favino, qui fabriquait des guitares Archtop avec Jean Chauvet, on va en parler, le tout premier à avoir commandé des restaurations de Selmer, ensuite des modèles en copie à Jacques Favino, c'est un Corse. Donc
D'accord.
c'est grâce aux Corses. Au Île d'Amour et Tino Rossi. Il y a une très belle photo dans le bouquin où on voit Tino Rossi avec une douzaine de guitaristes, tous sur Favino.
Et alors, moi qui n'y connais pas grand-chose en termes de guitare manouche, les guitares Favino, elles se positionnent comment par rapport au Selmer, au Busato, etc. Il y a une sorte d'aristocratie de la guitare manouche,
Oui,
là
y a une pyramide. On va
Ouais.
dire que, bon, Selmer, il y a d'abord Macaferri. Les
D'accord, ouais.
Macaferri, donc les guitares qui sont faites par Macaferri pour Selmer, ils se chipotent pour une histoire de petites lignes de contrat. Donc Macaferri en prend ombrage et s'en va. Il s'en ira d'ailleurs dans de bonnes conditions, mais il s'en va. Ensuite, Selmer a continué à produire des guitares qui ressemblent à celle-ci
Ouais.
et qui, par contre, ont une conception. Ils ne savaient pas trop ce que c'était de faire des guitares. Donc
D'accord.
ils ont fait comme ils ont pu et ils ont fait des Selmer. Il y a le Selmer d'avant-guerre, puis il y a le Selmer d'après-guerre.
Ouais.
Très honnêtement, il faut être clair, les Selmer d'après-guerre ont bien moins de choses à raconter que celles d'avant-guerre.
D'accord.
Et les
OK.
Macaferri sont des guitares bien mieux pensées. Des instruments de musique faits en conscience. Les Selmer, il y a les modèles de transition. Et puis, bon, Django prend cette guitare. C'est pour ça que cette guitare a du succès. Aujourd'hui, si Django n'avait pas pris cette guitare, on considérerait que c'était des instruments intéressants, mais qui auraient disparu de la circulation.
D'accord.
Sur ce, à l'époque, Selmer, c'est très cher. Même un étui de Selmer, on est dans la même problématique qu'on va acheter une belle Gibson et puis on veut l'étui, il est vendu séparément. C'est pour ça qu'on a plus de guitares que d'étuis d'origine dans le vintage. Et donc, il y a des personnes personnes qui commencent à faire des imitations. Celui qui va faire les imitations, qui va les pousser en disant « Oui, mais moi, je peux faire mieux, je peux faire plus beau encore », c'est Bortolo Busato.
D'accord.
Donc Busato fabrique dès les grandes bouches des copies de Macaferri, ensuite des copies de Selmer.
Donc plus haut de gamme, on peut dire, que par rapport à Selmer ?
Parfois, oui. D'accord. Et en termes de timbre, on a quelque chose qui est un petit peu plus mesuré, parce que la production est moindre et elle est faite par des ouvriers qui ne savent faire que de la guitare.
D'accord.
Alors que chez Selmer, ce sont des personnes, il y a 3 ouvriers qui ont été sélectionnés, qui sont des ouvriers spécialisés, mais une porte de 504 ou une guitare, pour eux, c'est à peu près la même chose.
Bah, ouais, finalement.
Voilà. Mais Busato, lui, continue à faire après-guerre, mais il se diversifie dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, et il meurt en 1960. Mmh. Et c'est quelqu'un qui était très, très, très connu, très convoité. D'ailleurs, les premières guitares de Brassens, modèle type Brassens, Brassens va acheter chez Busato.
D'accord.
On voit Brel avec des Busato, avant Favino, tout le monde joue un peu Busato.
D'accord.
Et puis Favino, qui est un homme qui commence à travailler dans d'autres domaines, finit par en faire la rencontre c'est un ouvrier, il a fait une formation d'ébéniste, il a fait une formation dans le métal, quand il est parti au service du travail obligatoire, il a appris énormément de choses dans ce genre de domaine. Quand il est revenu, il dit je ne veux plus travailler le métal, c'est terminé. Il a fait la rencontre de Jean Chauvet qui fabriquait des violons et des contrebasses, et ils se sont entendus, et Jean Chauvet était totalement étonné par la qualité du travail de Favino. Et ils se sont mis à la colle, ils ont une entreprise tous les deux. D'accord. Et un jour, on leur a apporté une guitare, ils se sont dit « Ah, bah, la guitare, pourquoi pas ?»
Ouais.
Puis ils l'ont pris un peu dehors, ils ont dit « Oui, ça doit être facile, mais on fait des violons. » Puis ils se sont rendus compte que les premières choses qu'ils ont faites ne collaient pas du tout, ça n'allait pas. Et ils se sont mis à fabriquer des guitares archtop de très grande qualité. Et c'est ce qui a introduit Jacques Favino dans ce milieu-là, et qui tout de suite a eu cette fibre, et puis l'écoute du musicien.
D'accord, et donc les premières Favino sont des guitares jazz archtop, alors.
Archtop, oui, voilà. Okay. Il n'est venu que tardivement, milieu des années, fin 50, sur les modèles de type jazz. Il a commencé par réparer des Selmer, et ensuite Pierre Becher, qui avait récupéré l'ensemble des outils de Selmer, lui a demandé de monter quelques guitares. Il y a environ une...
Pierre Becher de Paul Becher, j'imagine, ou
non,
rien à voir ?
Pierre Becher, rien à voir avec Paul.
D'accord.
Voilà,
okay.
C'est un autre magasin.
Okay.
Et le Pierre Becher a rapatrié tous les outils qui ensuite ont été rachetés par Rosine et François Charles, qui depuis sont au musée de
hip-hop de Montluçon.
Voilà.
Excellent musée que je recommande au passage.
Exact. C'est ce qu'il fallait que ça soit là, et c'est parfait que ça y soit. Et par contre, Jacques Favino, il voit très bien qu'en changeant il doit changer une table, ou il doit défonder, il doit réparer. Il trouve que la conception est assez grossière, que le travail est souvent grossier dans les Selmer. Alors, il n'est pas tombé sur forcément les Macaferri. Bon, du coup, il va développer un concept différent. Il va faire une caisse beaucoup plus grosse, beaucoup plus large, pardon, et un petit peu plus profonde, et en conservant le concept. Mais il va obtenir quelque chose qui va énormément plaire. Et un homme comme Matelot Ferret, un jour, le voit alors qu'il était en train de vendre, il venait de vendre des guitares chez Major Cohn, qui lui en commandait pour pas grand-chose d'ailleurs. Major Cohn appuie un petit peu sur la tête des luthiers. Cette ancienne a changé depuis. Voilà. Le nom reste, mais sont plus les mêmes personnes. Et Matelot l'a attendu en disant « Je viens de voir ce que vous faites, ça m'intéresse, vous pourriez me faire une guitare. » Et la collaboration a commencé comme ça. Mais c'était une archtop.
Okay.
Ce sont ensuite les Corses, donc. Qui ont commandé les premières guitares de ce type. Et puis, il y a eu une séparation entre Chauvet et Favino. Chauvet a conservé la fabrique de violons et de contrebasses. Et Jacques, lui, s'est consacré quasi immédiatement qu'à la fabrication de guitares.
D'accord. Donc ça, tu nous as fait un bref résumé, mais Arnaud n'est jamais bref dans ses réponses, c'est ça qui est agréable, parce que c'est toujours une encyclopédie vivante. Donc c'est toute cette histoire qu'on retrouve dans ce livre, n'est-ce pas ? Donc ce projet un peu fou ?
Ce projet un peu fou, il a été initié par Patrice Veillon.
D'accord.
Il est écrit à quatre mains. Patrice Veillon, c'est un graphiste de métier, était chef d'entreprise dans le domaine. Et puis c'est l'ami, c'est un grand ami de Jean-Pierre Favino, le fils. Et donc passionné de guitare, très bon guitariste. Et puis il évoque le fait de pouvoir faire, je crois en 91, alors qu'il rencontre aussi Jacques Favineau, il dit ah, on pourrait peut-être initier un livre. Et d'ailleurs à cela, Jacques Favineau répond oh si ça peut donner envie aux jeunes de faire ce métier-là, oui pourquoi pas. Parce qu'une fois de plus, on est sûr que Jacques et Jean-Pierre sont des personnages très humbles et qui ne cherchent pas forcément la lumière. Et Patrice, lui, a envie de mettre, pour le coup, en lumière, de remettre l'église au milieu du village, de dire voilà qui sont ces hommes. Et il est à la tête d'une énorme iconographie. Jean-Pierre nous a passé énormément de documents.
Accès
Et
aux archives.
voilà, c'est ça. Et donc, je pense qu'en 94, il commence vraiment à se dire oui, je vais faire un bouquin. Et au fur et à mesure de son parcours, alors qu'il a déjà beaucoup avancé dans la mise en forme du livre, il se dit que ça serait bien d'avoir un peu des textes qui se tiennent. Et puis, il est tombé sur un de mes premiers papiers que j'avais fait sur Jacques Favineau, publié sur guitarmag.com, et ensuite que j'ai publié dans Fred Bord Journal aux États-Unis. Et du coup, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de poursuivre l'aventure, d'aller au-delà? Je lui ai dit, bien sûr, on s'est trouvé, et je le remercie d'ailleurs d'être venu me chercher, parce qu'on a une belle collaboration et on est très fiers l'un et l'autre de ce livre qu'il a initié.
Et Patrice Veillon, je l'avais croisé, alors c'était à Issoudun il y a peut-être 2-3 ans, 2018 ou 9, je sais plus, parce qu'il avait sorti un produit qui est très pratique, qui s'appelle le Passe Guitare, et où on retrouve d'ailleurs le style de sa mise en page qui est très agréable, honnêtement. Alors là, le livre que je tiens avec moi, c'est un prototype, c'est pas tout à fait quelque chose de définitif, mais quand Arnaud m'a dit qu'il venait me voir avec un prototype, je m'attendais à voir un classeur tout moche,
Non,
imprimé,
c'est
tout
pas
vilain,
possible.
et là, j'ai déjà envie de le garder, ce bouquin, mais malheureusement, je pense que ça va pas être possible.
Non, c'est un
Et en tout
exemplaire
cas,
d'une correction, en
la mise
fait.
en page est magnifique et c'est rempli de guitare porn à ras-bord, quoi.
Voilà, on peut le dire comme ça.
Voilà.
Mais c'est pas interdit aux moins de 18 ans.
Ouais.
Oui, là, on a une couverture molle et un peu sombre. La couverture sera en dur,
D'accord.
cartonnée. C'est des livres cousus, pas collés.
Ok.
Donc, on a un produit qui est plus haut de gamme que ça, qui sert simplement. On pousse un peu le vice à se dire que les corrections à l'écran, c'est bien, mais on veut pouvoir tout recaler, avoir la main sur l'impression. Donc,
Vérifier la qualité des
voilà. Donc,
images,
on a
etc.
fait 4 exemplaires pour les correcteurs. Pour voir de quoi il en retourne.
Et alors, donc aujourd'hui, ce livre, il n'est pas encore, là on est le 17, 18 janvier, je crois. Comment est-ce qu'on va faire pour l'acquérir?
Alors, on a ouvert une souscription justement sur le site Passe Guitare, PAS Guitare à l'anglaise, avec lequel on édite le livre. Et il est en souscription. Donc, on
D'accord.
a décidé de 300 exemplaires. Ils doivent rester sur le site actuellement 78 ou 80,
D'accord.
parce qu'il y en a qui sont partis une vingtaine au Japon, là, aux États-Unis. Donc la mise en fabrication du livre, elle est imminente. Et une fois que tout sera terminé, fin février, les gens recevront, aux alentours du 27 février, si je dis pas de bêtises, recevront dans leur boîte aux lettres le livre.
D'accord, au prix de.
Au prix de, en souscription actuellement, c'est 65 € hors les frais de port, qui revient à peu près à une dizaine d'euros pour un exemplaire. Et ensuite, il sera à 75 € sans les
D'accord,
frais de port. Donc, on
d'accord.
gagne 10 euros en attendant. Et nous, ça nous permet de ne pas nous mettre à la rue pour le produire. Voilà,
Ouais.
c'est le principe de la souscription, du crowdfunding. Et voilà, on essaie de non pas de gagner de l'argent avec ce livre, mais de le diffuser et d'en faire suffisamment pour tous les gens qui vont avoir envie de découvrir les luthiers Favineau, ou de se les remémorer, ce qui est énormément de gens de la génération des années 50, 60, 70, 80, 90 ont un souvenir inénarrable de l'atelier Favineau du 9 rue de Clignancourt, et ensuite de celui de Castelbiac où est Jean-Pierre.
Et par la suite, une fois que la souscription sera terminée, ça sera toujours via le site web qu'on pourra acheter le livre, c'est ça?
Via le site, et puis il y a aussi magasins de musique comme
D'accord.
Guitare Village, le Guitarium,
D'accord.
Guitare Collection, qui en ont pris quelques-uns et qui renouvelleront. Et peut-être la librairie parallèle avec qui je travaille aussi pour diffuser.
D'accord. Et donc là, on a un ouvrage qui est assez imposant parce qu'on frise les 300 pages, beaucoup de photos, pas mal de textes, etc. Moi, comme je te disais avant qu'on commence l'interview, ça me rappelle le très beau livre qui a été fait autour des frères de la famille
Eh ben
Jacobacci.
c'est tant mieux, parce que c'est un excellent livre.
Et ouais, absolument. Et c'est important. Alors, on est tous évidemment à fantasmer sur les guitares américaines, etc. Mais on peut parfois oublier qu'on a des pages extrêmement glorieuses, extrêmement riches de l'héritage de la lutherie française, quoi.
Oui,
C'est important de l'écrire,
c'est
cette page.
important. En plus, c'est quelque chose qui, sociologiquement, moi, je suis sémiologue, je suis universitaire de formation.
Sémiologue, ça veut dire quoi là?
Voilà,
Tout de suite les
c'est
mots
tout ce
compliqués
qui.
là.
J'ai travaillé sur l'histoire et le sens de l'image, du son,
D'accord.
et aussi des interactions sociologiques, même quand ça ne se passe pas bien. C'est-à-dire des histoires d'immigration qui souvent ne se passent pas bien. C'est des choses que j'aime ramener, à savoir quel est le produit net de ce genre de choses. Je parle toujours de la musique musette, qui est faite avec trois types de personnes qui sont qui sont pas considérées dans la société, les Auvergnats, qui vendent du vin et du charbon à la Bastille, qui invitent les Italiens qui construisent des ponts dans le 94, et qui sont des immigrés pas bien considérés, et les derniers roues du carrosse qui sont les Manouches. Et ces gens-là, ces trois-là, vont fabriquer la musique la plus française qui soit, celle qu'on entend dans les restaurants japonais ou ce que les Américains aiment. La France, la musette, la valse musette, elle est auvergnate, elle est celte, elle est italienne et elle est manouche. Elle n'est pas l'un des trois, elle est ces trois choses-là. Donc, ce qui m'intéresse dans l'histoire de tous ces luthiers, ce que sont des Italiens, sur une histoire d'immigration. Et avant, on a Mirecourt qui fabrique violon, guitare, qui fabrique tout. La guitare, elle intervient à la fin des années 30, à la fin des années 20, pardon, ça devient quelque chose de très important dans la culture musicale populaire. Et ceux qui vont assumer 95% de la facture, hein, instrumentale de guitare, ce sont ces Italiens, ces Siciliens. Et Pierre Fontaine, qui est le Français qui, je pense, qui a essayé qui les a marqués à la culotte, mais gravement. Mais pour résumer, il y a quand même quelque chose qui a maille à partir avec justement cette histoire d'Italien qui s'installe. Donc, une fois de plus, dans le livre, s'il est question de ça, c'est de remettre les hommes de l'art au milieu de l'histoire. Ce n'est pas simplement une photographie de guitare en disant ouais, ça sonne bien, j'ai envie d'avoir la même. C'est de mettre les musiciens, c'est pour ça qu'il y a des sections sur les musiciens. C'est un livre dans lequel volontairement Patrice Veillon et moi-même, on n'a pas voulu être. Alors, vous voyez, la petite vis ici, elle a changé. J'ai fait deux, trois pages quand même, je n'ai pas pu résister. Mais sur des choses qu'on ne connaît pas bien, par exemple les mécaniques SB ou en revenant sur les cordes de Savarez, c'est important les cordes, bon genre de choses. Mais on n'a pas tenu à faire quelque chose d'extraordinairement, excessivement technique. Par contre, de retracer l'histoire, les évolutions, il y a beaucoup de choses sur la lutherie que nous donne Jean-Pierre aujourd'hui, qui nous explique le pourquoi du comment. Mais de remettre les musiciens au centre de la chose. Alors, c'est un livre qui va énormément plaire de toute façon à deux publics qui sont presque niais d'avance, les amoureux de la guitare jazz,
Bien sûr.
manouche. Jazz manouche, une fois de plus, c'est une appellation moderne, c'est une catégorie aristotélicienne très moderne, mais bon, tout le monde en parle comme ça aujourd'hui. Donc, tous ceux qui sont fans de Birelli, Matelot Ferré, Jacques Montagne, il y a Spazzowadel, il y a vraiment des photos rares dedans. Et tous les fans de Brassens, parce qu'on a réussi à mettre la main sur quantité de guitares de Georges Brassens, qu'on a photographiées, on a fait l'historique de quel nombre de guitares, qui, quoi, comment, où. Donc le musicien, c'est lui qui est la cheville au centre de l'affaire. Et les guitares viennent s'articuler autour.
Très bien, terrible. Et à noter que l'histoire Favino, elle continue en 2021. C'est pas, on n'est pas
Non,
dans
non,
le
non,
musée là.
non, non. On a quelque chose d'important, pareil, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est-à-dire qu'on a assisté, on assiste depuis longtemps, le rock'n'roll en a fait même un peu ses choux gras, c'est on tue le père, on passe son temps à tuer le père. On tue le père, on tue le père, c'est un conflit des générations. Ah bah ouais, moi je suis jeune, j'écoute ça, les autres ils écoutent de la musique de vieux. C'est quelque chose de très récent. Quand en musicologie on recherche à quel moment ça se produit au début des années 60. Ça se
D'accord.
produit avec l'importation de l'invention de l'adolescence, ça se produit avec des adolescents qui travaillent plus tard, ça se produit. Il y a dans ce film avec Trintignant je mange le nom de ce comédien italien où ils sont dans une petite voiture, ils font un tour d'Italie. On voit, il y a un bol populaire, puis les jeunes s'ennuient. Et à un moment, l'accordéon s'arrête et l'accordéon reprend, mais en jouant du twist. On a les vieux et les jeunes qui jouent du twist. C'est amusant, c'est un détail cinématographique, mais qui en dit long sur justement l'invention du conflit des générations.
D'accord.
Les Grecs anciens, les Latins disaient, comme disait Abélard, si omnes patressi, kategodon si. En latin, ça veut dire si mon père pense ainsi, alors je pense différemment.
D'accord.
Mais ce qui est intéressant, c'est de dire mon père pense ça. Et ce père, ça peut être pair aussi. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas penser pareil, mais on a le devoir d'être dans la continuité. Et comme disait Gustave Mahler, pour le coup, la tradition, c'est pas la commémoration des cendres, c'est la passation du feu. Et entre
formule,
Gustave Mahler savait faire des phrases musicales et autres. Et Jacques Favineau a transmis à son fils. Au départ, il n'était pas très chaud d'ailleurs pour qu'il fasse le même métier.
Mmh.
Et puis Jean-Pierre a fait les beaux-arts. Et puis il s'avère qu'il a une main absolue, une grande précision. Et il a dû se faire un prénom. Il a eu toutes les embûches possibles, comme beaucoup dans ce genre de situation. Et il a été dans la continuité, et il s'est fabriqué un univers, il a fabriqué beaucoup de guitares, et beaucoup de choses très modernes. Et il y a eu, on peut parler de Michel Gentil, qui est un musicien qui pourrait avoir une envergure internationale par rapport à ses qualités de musicien, qui est un peu dans la lignée de ce qu'est Chad Keith, ou c'est peut-être même John McLaughlin qui a pompé sur Michel Gentil, mais avec des instruments, avec des théorbures qui sont extraordinaires. C'est n'importe qui a mis les mains sur un bout de bois et sur une guitare. Les instruments de Jean-Pierre Favineau, de ces instruments-là, sont totalement fabuleux, incroyables. Et donc, il a hérité du talent de son père. Et il a su, comme me disait Elios Ferret, avoir un héritage comme celui de Matelot ou celui de Jacques Favineau. Il faut le porter, mais il faut le porter haut.
Ouais.
On ne peut pas le porter bas. Et c'est le cas de Jean-Pierre Favineau, qui est toujours en activité, qui fabrique avec peu, sur commande. Et il ne faut pas tous l'appeler pour lui fabriquer une guitare quand il y a le bouquin, parce qu'il va nous étrangler, il va dire non, foutez-moi la
paix. Je voulais pas le faire, ça.
Voilà.
Et... Moi, je me rappelle, Jean-Pierre, j'avais eu l'occasion de le croiser, c'était quand il y avait eu un salon à la Bellevilloise, et donc je lui avais sauté dessus, j'ai dit ah, viens, enfin, ou j'avais dû le vouvoyer, puis après on s'était tutoyé, on va faire une interview. Puis il dit non, mais je veux pas faire en vidéo. Bon, ok, donc du coup on a fait l'interview en audio, puis moi j'étais tout intimidé parce que même si je connais pas grand chose à ce monde un peu spécifique, cette histoire, je savais que c'était déjà un grand monsieur, quoi. Donc moi je suis hyper content d'avoir eu l'occasion de te recevoir, donc précipitez-vous, voilà, sur la souscription pour acheter un de ces 300 exemplaires, hein, c'est ça?
Oui,
que tu as dit.
il en reste à peine 80.
Voilà.
Ouais.
Et puis, parce que sinon, après, il faudra peut-être attendre un petit peu.
Non,
donc,
il ne faudra pas attendre, mais non. Il sera 10 euros plus cher.
D'accord. Ben voilà.
Voilà.
Donc, une bonne raison. Et vous avez pu remarquer qu'Arnaud est toujours très, très généreux dans ses réponses. Donc, vous pouvez imaginer un peu le cœur, la passion qu'il a pu mettre aussi dans le livre. On a 100% de l'ADN Arnaud Legrand à l'intérieur.
Et de Patrice Veillon. Patrice Veillon, il n'est pas là, mais il faut le... Si, oui, de Patrice Veillon. On a tout relu ensemble. On a... Avec Jean-Pierre, d'ailleurs.
D'accord.
Oui, c'est, le but du jeu, c'est que tous les trois, nous devions être d'accord les uns avec les autres. Et que, évidemment, Jean-Pierre devait valider tout le contenu,
d'accord,
l'intégralité du contenu.
Génial.
Bah écoute, merci beaucoup, Arnaud, d'être venu jusqu'ici. Et puis, félicitations pour avoir mené à bien ce très beau projet. Un livre, moi, je l'ai juste feuilleté. On en a parlé un petit peu rapidement. Justement, je trouve que c'est un livre, bon, certes, qui est très épais. Il y a beaucoup de choses dedans, mais qui se feuillette de manière très agréable. Même si là, c'est un prototype, que le papier sera encore plus beau après, etc. Honnêtement, ça se regarde. On a envie de le feuilleter. De s'arrêter, de lire un petit bout d'article. Voilà. On ne peut pas acheter le bonheur, mais la chose juste en dessous, c'est acheter des guitares. Et juste en dessous, acheter des guitares, c'est acheter des livres qui parlent de guitare. T'es d'accord avec moi?
Tout à fait.
Voilà. Merci beaucoup, Arnaud. Puis bonne continuation. Ciao.